Je suis rentré dans une petite équipe et ensuite rapidement dans l'équipe Festina. Où là, après, ben voilà, parce que je suis devenu professionnel dans l'équipe Festina, c'est là que j'ai vraiment découvert en fait ce qu'était le cyclisme de haut niveau, le cyclisme professionnel, avec tout ce que ça implique automatiquement, alors aussi bien en termes d'entraînement, mais surtout en termes d'assistance médicale et dopage, puisque ben voilà, on le saura ensuite 3 ans après, ben l'équipe Festina, il y avait un dopage organisé, et donc j'ai découvert tout ça au fil des mois, au fil des semaines.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cyclisme?
C'est d'aller plus loin dans la nature, découvrir la nature, par chez moi dans le Tarn, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à pied, je ne pouvais pas aller trop loin. Et à bout d'un moment, j'ai pris un VTT, j'ai appris à aller plus loin, et voilà. Et au final, au début, c'était un moyen de locomotion, et après, j'ai pris du plaisir à me dépasser, à souffrir sur un vélo, à progresser, à jouer avec mon corps. Et je crois que c'est ce que j'ai toujours aimé dans le vélo, et ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est que finalement, eh bien, ça permet de, voilà, de souffrir et d'être fier de ce que l'on fait, et de pouvoir jouer avec, avec sa tête et son corps, parce que la tête, souvent, c'est celle qui guide le plus.
Quelles envies tu avais quand tu as intégré le circuit professionnel?
Intégrer, non, c'est que ça m'est tombé dessus. Donc après, les envies, c'est juste, moi, aller chercher le maximum de mes aptitudes, les développer au maximum, être fier de ce que je pouvais faire, c'est tout. Hein. Donner le maximum pour pas avoir de regrets plus tard, de me dire, si j'avais su, j'aurais fait ça. Non, je crois que l'idée, c'était ça. Après, mon objectif n'était pas automatiquement de gagner de grandes courses et tout. Parce que de toute façon, ben, d'entrée, j'ai vu comment était le milieu et je savais les choix que moi, j'avais fait et que j'allais maintenir. Donc je savais que, bien sûr, vu que le dopage était organisé, je ne pourrais pas être au plus haut niveau. Mais moi, par contre, j'avais vraiment l'intention de me battre contre ces gens. Et ça ne m'a jamais déplu de partir avec un désavantage. Ça me plaisait bien.
On entend souvent dire que le cyclisme, c'est la plus dure des disciplines sportives. Tu confirmes?
Ouais, c'est une discipline dure, mais tu sais, à partir du moment où on fait un sport de haut niveau, c'est dur pour tout le monde parce qu'il faut pousser ses limites au maximum. C'est dur, mais quand on a de la boxe, on a d'autres sports, le triathlon, etc., je pense que c'est dur aussi. Puis tout ça, c'est dans la tête, quoi, je crois. Il y a des sports qui vont être durs physiquement, d'autres qui vont être durs mentalement. Mais comme je dis, le haut niveau, c'est le haut niveau et il faut pousser le corps à ses extrêmes.
C'est quoi le quotidien d'un cycliste professionnel et la vie quotidienne d'une équipe professionnelle?
Oh ben c'est axé autour du vélo, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. C'est 30-35 heures d'entraînement semaine. Et à partir de là, eh ben voilà, tu fais tes heures principalement le matin, tu essaies de récupérer le maximum l'après-midi, tu essaies de bien t'alimenter, de t'alimenter quand il faut, de la bonne manière, tu essaies de dormir de manière régulière. Et puis indirectement, eh ben tu vis sport tous les jours, et en permanence et toute l'année. Après, là où ça se passe pas très bien, c'est quand t'arrives des problèmes, parce que les problèmes, c'est comme partout. Quand tu les as au travail, tu les as à la maison aussi, donc tu vis 100% avec tes problèmes.
C'est quoi la durée moyenne d'une carrière professionnelle pour un cycliste?
Ouais, normalement, c'est entre 10 et 15 ans à peu près, une carrière. À peu près, c'est-à-dire qu'un coureur peut passer à l'âge de 20 ans, 20-21 ans et s'arrêter à 35 ans. Voilà, c'est à peu près la moyenne en termes d'âge, parce qu'on peut être encore performant à 35 ans. C'est ça. Bon, moi, ça a été bien plus court.
Avec quel revenu?
Ouais, vous savez, il y a de tout, honnêtement, il y a de tout. Vous pouvez trouver des coureurs qui gagnent moins de, je crois que c'est 2 000 euros, et d'autres qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, tout dépend les performances. Comme je dis, vous ne serez pas mieux payé parce que vous avez des valeurs, vous serez mieux payé parce que vous avez des résultats. C'est bien là le problème.
Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec le dopage?
Oh ben oui, ma première rencontre, c'était même pas quand lorsque je suis passé pro, hein, c'était vraiment à l'école interarmée des sports, au bâtiment de Joinville, où là je me suis retrouvé avec des coureurs et ben voilà, qui avaient déjà l'habitude, qui avaient déjà la culture cycliste et qui prenaient régulièrement des médicaments, des cachets, des piqûres, qui se faisaient des piqûres à l'intramusculaire pour se doper, notamment en corticoïdes. Donc c'est déjà un amateur que je l'ai découverte.
Quand on parle de dopage, on parle de quoi? C'est quel produit, quelle pratique?
Ah ben dopage, de toute façon, c'est clair, il y a une liste de substances et méthodes interdites. Alors, certaines sont interdites en compétition à l'entraînement, d'autres le sont qu'en compétition. Mais en tous les cas, c'est une liste de produits interdits. Ça, c'est le dopage. Et donc, à partir du moment où on prend une substance interdite pour améliorer ses performances, on est dopé. Après, il y a une autre définition qu'on appelle la conduite dopante. Là, c'est autre chose. C'est la prise d'un produit quelconque pour surmonter un obstacle réel ou imaginé. Ça, c'est la conduite dopante parce qu'au final, pourquoi on a ces deux définitions? Ben, c'est que l'acte est le même. Que vous preniez un cachet interdit ou un cachet pas interdit, vous prenez un cachet. Si vous prenez, faites une piqûre d'un produit interdit ou un produit pas interdit, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas passer dans l'acte. Parce qu'à partir du moment où vous faites l'acte, il suffit de changer la substance et vous passez dans le dopage. C'est pour ça qu'en termes de prévention, on travaille beaucoup sur la conduite dopante.
Quand tu as intégré l'équipe Festina, est-ce que le dopage, c'était un sujet tabou ou est-ce que c'était un sujet de conversation comme les autres? Comment on en parle dans l'équipe?
Oh, pas du tout tabou, non, c'était normal. Normal, et parce que dans les autres équipes, c'était la même chose aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la culture du vélo. Dans le cyclisme, si on voulait être un grand cycliste, si on voulait faire le métier, il fallait se doper. Se doper, c'était faire le métier. Il fallait s'entraîner, bien manger, se doper. Parce que c'était comme ça depuis des décennies. Donc à partir de là, non, personne ne s'en cachait. Moi, j'avais à côté de moi en chambre des coureurs qui se faisaient des intramusculaires, qui se faisaient des intraveineuses, qui se faisaient des perfusions, qui se faisaient de tout. Parce que c'était normal et on ne s'en cachait pas.
Est-ce que les cyclistes ont conscience des dangers du dopage ?
Ben, je ne sais pas, et je ne sais pas, je ne sais même pas s'ils devraient l'être, s'ils devraient en avoir conscience, parce que vous savez, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est repousser son sport dans les limites, à faire 21 jours de course sans s'arrêter, descendre les cols à 110 km/h, etc., ou se doper? Je ne sais pas. Est-ce que finalement le dopage, à un moment donné, ne va pas les aider à récupérer et autres? C'est des questions qu'il faut se poser si on veut être efficace en prévention. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tout simplement, quand vous rentrez dans ce milieu, les gens qui vont vouloir que vous vous dopiez, ils vont vous expliquer qu'il est important de se doper pour protéger sa santé. C'est bien là le problème. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas partir dans l'idée qu'il faut à tout prix protéger sa santé. Je pense qu'à un moment donné, on fait du sport pour son bien-être, pour sa santé, bien-être physique, mental et social. On fait un choix, il faut respecter ce choix. Mais ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui, c'est aider les jeunes à se faire la construction de la bonne définition de ce qu'est le sport, de ce qu'est être heureux et de ce qu'est le dopage.
C'est quoi les arguments de ceux qui expliquent que le dopage, c'est là pour préserver la santé du sportif?
Déjà, c'est d'entendre dire tous les médias qui disent que le Tour de France, c'est inhumain, c'est un sport inhumain, c'est impossible à faire sans dopage, etc., etc. À partir du moment où vous dites que le sport, le cyclisme est un sport inhumain, vous justifiez la prise de produits chez le sportif. C'est évident, puisque tout le monde dit que ce qu'il fait est inhumain. Donc ça se justifie que de se rééquilibrer médicalement. Donc à partir de là, on va dans ce sens. Je crois qu'il faut essayer d'avoir un discours, de dire, on a des aptitudes, on va essayer de chercher le maximum, mais pas automatiquement vaincre l'autre.
Pourquoi tu as refusé le dopage?
Il y a plusieurs raisons, c'est très multiple. Dans tous les cas, c'est que je n'en avais pas besoin, que j'étais pas malheureux et que je n'avais pas de besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'avais pas besoin de reconnaissance, je n'avais pas besoin d'argent. Mon objectif, je voulais être heureux et être heureux, ce n'était pas ça. Moi, je voulais être fier de moi, je voulais que les gens soient fiers de moi, je voulais être capable de pouvoir me regarder dans une glace, je voulais pouvoir rentrer à la maison, voir mon épouse entre quatre yeux, ne rien lui cacher, vivre dans la sérénité totale. Donc, c'était mon seul objectif, et vivre dans le mensonge aurait été impossible pour moi.
Pendant la conférence que tu viens de donner, tu as parlé d'un podium sur lequel tu as fini troisième avec deux autres membres de l'équipe Festina. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce podium et sur ses impressions?
Oui, mais c'était un podium championnat de France. Au final, je fais troisième. D'ailleurs, deux têtes, c'était Brochard et Christophe Moreau. Mais tout simplement, oui, parce qu'une heure avant le départ de cette course, on était tous les trois dans une chambre en train de se préparer, de mettre la combinaison et tout. Et là, mes deux collègues qui étaient en train de s'infiltrer des produits dopants pour la course. Et voilà, et au final, ces deux personnes sont devant moi, mais vous savez, quand je me suis retrouvé sur le podium, je pense que le plus heureux, c'était moi. Déjà, le plus heureux, pourquoi? Le plus fier, parce que je les regardais, ils n'osaient pas me regarder, et moi, je pouvais les regarder entre quatre yeux, ça ne m'aurait pas posé de problème. Et puis, en descendant du podium, un journaliste est venu me voir, il m'a dit, mais c'est étonnant, t'es troisième et t'es le plus heureux. J'ai dit, ouais, je suis fier de mon résultat. Et je pense qu'eux l'étaient peut-être moi-même.
Il y a eu plusieurs moments importants dans ton parcours, notamment la signature de ton deuxième contrat chez Festina. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, c'était juste avant l'affaire Festina. Il était question de renouveler mon contrat. Et à l'époque, je gagnais 3000 euros de tête par mois. Et donc, on m'a convoqué. C'est le directeur sportif avec le docteur qui m'ont convoqué en me présentant deux contrats, en fait. Bon, c'est vrai que j'avais les meilleurs tests hivernaux, tests physiques de l'équipe, etc. J'étais très fort durant l'hiver, mais passé après l'année, bien sûr, lorsque les autres se dopaient, je ne voyais plus le jour. Et là, il était question de me proposer, j'avais le choix entre deux contrats, soit je repartais pour 4500 euros en continuant le vélo comme je le concevais, c'est-à-dire sans produire, rien du tout. Et sinon, on me proposait un contrat de 45 000 euros si je m'engageais à prendre de l'EPO en mode de croissance testostérone. Ce que j'ai refusé, j'ai signé mon contrat de 4500 parce que j'avais envie de continuer à faire le vélo comme j'avais envie. Après, ça peut surprendre de pas accepter un contrat à 45 000 euros. J'aurais pu me dire, je fais ça pendant deux ans, je suis riche et j'arrête. Mais je pense que c'est un truc où quand tu commences à y goûter, tu n'en sors plus.
Avant qu'on parle du Tour de France 99, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette fameuse affaire Festina?
Oui, ben l'affaire Festina, en fait, c'est un soigneur, juste au début du Tour de France 98, qui se fait arrêter sur la frontière franco-belge. Et puis là, on voit qu'il a des centaines de médicaments, de produits dopants qui sont destinés aux coureurs de l'équipe Festina sur le Tour. Et donc là, il est soulevé et on découvre qu'il y a un dopage organisé au sein de cette équipe. Du coup, ben voilà, tous les coureurs de l'équipe Festina sont convoqués, sont à Quai des Orfèvres à Paris, à la Brigade des Stupéfiants, où on est tous interrogés, etc. On nous prélève des cheveux pour savoir qui se dope, qui ne se dope pas. Et au final, eh bien, c'est là que les autres coureurs, pour se défendre, en fait, se dédouaner, ils disent clairement, eh bien, attendez, tout le monde le fait dans le cyclisme, la preuve dans l'équipe, il y en a un qui ne prend rien du tout, c'est Christophe Basson. Et finalement, eh bien, les rôles s'inversent, et ce sont les dopés qui ont dénoncé le non-dopé, ce qui est quand même assez amusant.
Et après cette affaire Festina arrive le Tour de France 1999, un tour bien particulier. Tu peux nous en dire un peu plus, hein?
Oui, Tour de France, déjà c'est mon premier Tour de France, puisque je suis Festina et hors de question que je le fasse en n'étant pas dopé. Et là, c'est le premier Tour de France que gagne Lance Armstrong. Et moi, j'ai la chance parce qu'il y a un peu déjà la réputation de l'année dernière du monsieur propre du peloton. J'entretiens une chronique tous les jours dans un grand journal, et où là j'explique mon nouveau tour et que j'explique clairement qu'il est impossible de gagner le Tour de France sans se doper, vu la vitesse à laquelle ça roule, etc. Et donc là je me mets à dos tout un milieu, notamment Lance Armstrong, qui ensuite vient m'attraper par l'épaule, etc., m'expliquer que je fais du mal au cyclisme et qu'il faut que je le quitte, que si ce milieu n'est pas fait pour moi, que je rentre à la maison. Et donc voilà, et même les coureurs de mon équipe ont commencé à ne plus me parler, donc je me suis mis à dos tout le peloton que j'ai abandonné de tête le 15e jour et où j'ai enchaîné derrière 6 mois de dépression, parce que voilà, ça m'avait lâché nerveusement. Bonne ou mauvaise expérience, j'en sais rien, ce tour, mais en tous les cas, ça m'a, voilà, j'ai essayé de défendre des idées, là, au moment, ça ne suit plus, des fois vous êtes fatigué nerveusement. J'ai craqué, donc j'ai été un peu le mauvais exemple, parce que j'ai très bien démontré que si vous parlez, vous faites jeter. Mais bon, c'est comme ça, je pense que j'en suis ressorti grandi.
Comme tu le disais, en 99, Lance Armstrong a des propos très durs avec toi. Il dit, je cite, « Les accusations de Christophe Basson ne sont pas bonnes pour le cyclisme, pour son équipe, pour moi, ni personne. S'il pense que le cyclisme fonctionne comme cela, il se trompe et c'est mieux qu'il reste chez lui. » Comment tu réagis à l'époque quand un sportif comme Lance Armstrong s'adresse à toi comme ça?
Ça me fait rien. Clairement, ça me fait rien parce que j'étais rentré dans un système où j'avais tout le milieu contre moi. Et au final, que ce soit Lance Armstrong ou un autre, pourquoi c'était la même chose, il ne me faisait pas spécialement peur. Et voilà, donc après, moi, je restais sur mes positions parce que je suis persuadé d'avoir raison. Et les années ensuite ont démontré que j'avais raison. Je ne voulais surtout pas me laisser influencer. Et comme je dis, je crois que j'ai eu à un moment donné, j'ai grandi, j'étais très proche de mon grand-père qui est anti-franquiste, qui a défendu des idées, et moi mon idée c'était de défendre aussi, avoir ma liberté de parole. Et ça je l'ai toujours défendu, j'ai tout fait pour le défendre, et voilà, et c'était dans cette situation-là, c'est ce que je me suis dit c'est bien parce que tu me diras de me taire, que je ne me tairai pas, c'est tout.
En 99, tu abandonnes le Tour de France. En 99, c'est la première victoire de Lance Armstrong sur le Tour de France, il va en gagner 7 jusqu'en 2005. Comment tu expliques le fait que le peloton subisse sans rien dire?
C'est la volonté de garder sa place, c'est tout. À partir du moment, vous savez, c'est comme quand j'ai fait mes deux dernières années dans l'équipe Jean de la Tour. À l'intérieur, il y avait un coureur qui était Laurent Brochard, que j'avais côtoyé à Festina, qui ne pouvait pas me voir. Et bien évidemment, avec ce qui s'est passé, c'est que tous les autres coureurs de l'équipe ne pouvaient pas me voir parce que Laurent Brochard ne pouvait pas me voir. Il fallait être bien avec le leader pour pouvoir participer à toutes les grandes courses. C'est pareil dans le milieu. Vous savez, c'est très difficile de faire gagner quelqu'un. Par contre, c'est très facile de faire perdre quelqu'un. Et on savait très bien, et comme ont pu le dire les coureurs de mon équipe sur le Tour 99 à la Française des Jeux, clairement, ils m'ont dit, tais-toi, arrête de parler, parce qu'à cause de toi, on ne va gagner aucune course. En clair, si tu parles, tu continues à parler. Armstrong et les autres équipes vont faire le maximum pour qu'on ne gagne jamais. Ils vont toujours rouler sur nous. Donc voilà, ça veut dire qu'ils tenaient à un moment donné le milieu en tant que patron. Et puis, entre guillemets aussi, c'est que les autres avaient aussi des choses à se reprocher. Donc clairement, ils savaient que c'est le fameux retour à l'élastique. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une grande liberté de parole parce que j'ai rien caché. Et je sais que j'ai beau parler, personne ne me mettra en pleine figure. T'as vu, tu fais mieux te taire, t'as vu ce que t'as fait toi il y a quelques années, puisqu'on n'a rien à me reprocher. Et c'est ça, être libre. Et donc, eux ne l'étaient pas.
En 2013, Lance Armstrong finit par avouer, lors d'une interview télévisée, qu'il a bien eu recours au dopage pour toutes ses victoires du Tour de France. Comment tu réagis à l'époque ?
Ouais, bien sûr, j'étais très sollicité là-dessus. Pour moi, ce n'était pas spécialement une satisfaction. Honnêtement, rapidement, je me suis inquiété de la situation psychologique de Lance Armstrong parce que j'ai vu que tout le monde, entre guillemets, le démontait, allait à son encontre. Je me suis dit, ben voilà, j'ai pas envie de le retrouver comme un pantani pendu dans une chambre parce qu'il rentre en dépression. C'est surtout pas ma volonté, au contraire. C'est pour ça qu'également, j'ai bien voulu le rencontrer quand il me l'a proposé pour s'excuser auprès de moi parce que voilà, j'étais aussi inquiet pour sa situation. Donc voilà, après, moi, ça m'a rien appris. Je connaissais la vérité. Ça a confirmé des choses chez certains. Ils ont l'impression, certains ont pensé que j'allais être hyper satisfait. C'était pas le cas. C'était pas le cas, mais bon, après, d'un autre côté, c'est sûr, quand les gens reconnaissent que tu avais raison, c'est toujours une petite satisfaction. Mais ça en est juste resté là.
Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour de France en utilisant des produits dopants. Est-ce que tu penses que du coup, il a aucun mérite sportif?
Ah, il a quand même un mérite parce que même dopé indirectement, tu vas au bout de tes limites, tu vas au bout de tes souffrances indirectement, même lorsque tu es dopé. Et c'était un bosseur, c'est quelqu'un qui savait se faire mal, etc. Ça, on ne l'enlèvera pas. Après, il a triché, il avait ses raisons d'avoir triché. Il y en a d'autres qui l'ont fait avec d'autres raisons. Voilà, il n'y a que lui qui le sait. Je pense que voilà, quel est son état d'esprit aujourd'hui, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il le regrette ou pas. Mais par contre, c'était un champion. Mais ce n'était pas un grand champion parce que pour moi, un grand champion, c'est quelqu'un qui défend des valeurs, quelqu'un qui a des résultats, qui défend des valeurs, qui est honnête. Ben, c'est un exemple. Et pour moi, voilà, il ne l'était pas comme beaucoup d'autres.
Est-ce qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, on peut parler d'une hypocrisie générale dans le monde du cyclisme, à savoir les entraîneurs, les directeurs sportifs et même les journalistes? Moi, je me souviens à l'époque d'un journaliste sur France 2, je crois, qui s'était extasié à la fin d'un tour en constatant que la vitesse moyenne du tour était de 40 km/h. Et je me suis dit, mais quelle hypocrisie, en fait, il est journaliste et il le sait.
Bien sûr, ils le savaient tous, quand on voyait les vitesses qu'il y avait et tout, et puis même, il y a plus que ça. Combien j'ai vu de journalistes aller faire des fêtes avec des coureurs, prendre le pot belge, des amphétamines, etc., juste pour faire la fête, donc ils participaient également à la prise de produits. Donc voilà, c'est un milieu où chacun a sa place, et chacun veut garder sa place. Et un journaliste, vous savez, un journaliste, s'il veut être un bon journaliste dans son journal, pour suivre le Tour de France, il faut qu'il ait la possibilité d'avoir des interviews de coureurs. Et si tu veux des interviews de coureurs, il ne faut surtout pas dire du mal d'eux, parce que sinon, ils te boycottent. Donc, tu fais du copinage avec les coureurs pour pouvoir avoir une interview de temps en temps, et comme ça, tu fais bien ton métier. Ben, c'est ce qu'ils, eux, appellent faire son métier. Vous savez, quand on parle justement de journalisme, moi, je dis que déjà, on fera aussi un grand pas en termes de prévention de dopage le jour où un journaliste sera capable de faire passer et de défendre des valeurs, plutôt que toujours communiquer que sur du résultat. Vous lisez des journaux aujourd'hui bien spécialisés dans le sport, je veux dire, c'est pas trop compliqué d'être journaliste pour eux. Il suffit de regarder un match de foot, vous mettez en gros de la page le résultat, vous expliquez le déroulement du match, avec qui a marqué, qui a eu des cartons rouges, qui a eu des cartons jaunes, et vous êtes un bon journaliste. C'est triste.
Pour beaucoup de gens, dopage égale cyclisme ou cyclisme égale dopage. Qu'est-ce que tu penses de cette formule et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du dopage dans les autres sports ou peu?
En ce moment, on en parle un peu avec le rugby notamment, mais c'est sûr que le cyclisme, il y a une culture qui existe depuis des années, mais ça a bien évolué. Franchement, c'est plus tout ce que c'était il y a 30 ans. Par contre, il y a d'autres sports pour lesquels on s'inquiète, notamment le rugby. Et après, il y a des sports qui sont vraiment à la pointe du dopage en termes de nombre de positifs, de pourcentage de positifs. C'est tout ce qui est culturisme, haltérophilie, où là, automatiquement, bien sûr, des positifs, on en a, et c'est là où on en trouve le plus. Mais voilà, il y a des sports qui sont plus ou moins touchés. Mais ce que je dis surtout, moi, c'est que tout le monde est concerné. Tous les sports sont concernés parce que finalement, pour n'importe quel sport, on peut trouver un intérêt au dopage. Et les enjeux, il n'y a pas besoin de pouvoir gagner des millions et des millions pour se doper. La preuve, dans les salles de remise en forme, c'est là où on trouve le plus de dopage. Pourtant, ce sont des gens qui ne font pas de compétition. Ils sont juste là pour espérer un jour se plaire dans une glace. Et c'est les gens peut-être qui mettent le plus d'argent dans le dopage.
En 2001, tu quittes ce monde professionnel du cyclisme. Ça se passe comment ?
C'est quand même un soulagement, même si j'étais poussé vers la porte de sortie. Pour moi, c'est un soulagement parce que j'étais sous pression, j'étais limite dépression, je me plaisais plus dans ce milieu. Comme je disais, quand vous avez des soucis au travail, vous les amenez à la maison aussi. Je prenais plus de plaisir à rouler et ça me gênait énormément. Donc quand j'ai vu que ça se passait déjà mal en 2000, j'ai décidé de me reconvertir, faire une formation de 6 mois pendant que j'étais encore professionnel. Et après, par contre, j'ai dit stop, quand j'ai vu que ça devenait du harcèlement physique, c'est-à-dire des coureurs me mettaient dans le fossé. Ils essayaient de me faire mal, c'est vraiment devenu physique. J'ai dit, stop, c'est bon, t'arrêtes plutôt que prévu, tu t'en vas. Et je suis devenu pro de sport le 1er septembre 2001.
Aujourd'hui, tu es conseiller interrégional antidopage. C'est quoi être conseiller interrégional antidopage ?
Je lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants sur la région Nouvelle-Aquitaine. En clair, j'ai une double mission. Je mets en place tous les contrôles antidopage sur cette région. Ça peut aller d'un match de foot professionnel, rugby professionnel, cyclisme, tout comme ça peut être une petite course à pied dans un village, ça peut être un entraînement dans un club, ça peut être partout. Tous les contrôles antidopage, c'est moi qui les mets sur la Nouvelle-Aquitaine. Je m'appuie pour cela sur des préleveurs qui sont habilités et assermentés pour pouvoir effectuer ces contrôles-là. Et en parallèle, je suis également agent de police judiciaire, où là justement, je suis apte et je suis en capacité de faire des perquisitions, etc. Je monte des actions coordonnées de lutte contre le trafic de produits dopants, où là je travaille avec la douane, la police, la gendarmerie, la répression des fraudes, l'agence régionale de santé, la direction régionale des finances publiques, etc. Où on va travailler sur des individus qui sont des dopeurs. C'est-à-dire que d'un côté, avec mes contrôles, je vais aller chercher les dopés. Et d'un autre côté, avec le judiciaire, où je suis en étroite collaboration avec le procureur de la République, eh bien, je vais aller chercher ceux qui incitent, ceux qui dopent, ceux qui administrent, ceux qui voilà, profitent de la faiblesse de certaines personnes à un moment donné, notamment les jeunes, pour finalement se faire de l'argent sur leur dos. Donc ces gens-là, eh bien, voilà, c'est du pénal, donc on va les chercher pour essayer de les sanctionner.
Est-ce que le dopage, c'est une fatalité ou est-ce que des solutions sont possibles ?
Pour moi, ce n'est pas une fatalité. Par contre, il faut travailler bien plus large que faire de la prévention dopage. Il faut travailler à l'épanouissement personnel des jeunes. Il faut travailler à ce qu'est être heureux. Il faut travailler sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire cette capacité à dire non pour ces jeunes-là. Être capable d'avoir un argumentaire, créer un argumentaire, défendre ses idées, défendre cette liberté de parole. Vous savez, les communications, les conversations sont intéressantes que lorsqu'il y a une diversité de personnes. Malheureusement, quand vous vous trouvez dans une conversation où il n'y a que des gens formatés, la conversation n'est pas intéressante. Et comme je dis, on s'enrichira de par cette diversité, mais encore faut-il la développer et peut-être revoir une éducation. Pas formater les gens, accepter qu'il y ait tout le monde est différent, que finalement tout le monde n'évolue pas à la même vitesse, tout le monde n'a pas les mêmes idées parce que tout le monde n'a pas le même vécu, n'a pas le même présent, n'a pas les mêmes objectifs. Il faut accepter cette différence. Et si on arrive à la développer, voilà, et toujours maintenir au centre de l'activité le plaisir dans la pratique et pas dans la réussite. C'est une déviance qu'on trouve beaucoup trop dans le milieu sportif maintenant. C'est-à-dire qu'on essaie de motiver des jeunes de par la compétition, la réussite. On essaie de motiver des jeunes sportifs de haut niveau en les faisant espérer, en leur faisant croire qu'ils seront un jour sportifs professionnels et reconnus qui passeront tous les jours dans les médias. C'est pas ça le sport. Je veux dire, il faut en permanence maintenir le plaisir dans la pratique, le plaisir de se surpasser et le fait d'avoir conscience que finalement le sport vous permet de devenir fier, de gagner une estime de soi, mais la vraie estime de soi. C'est-à-dire ne pas avoir besoin de se comparer aux autres pour exister. Juste être capable de pouvoir se regarder dans une glace et se dire « je suis fier de moi ».
Je crois que tu viens de le faire, mais justement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui se lancerait dans le cyclisme ou dans le sport en général et à qui on proposerait d'avoir recours au dopage pour la première fois ?
Mais déjà, si on lui propose d'avoir recours, après, c'est seul lui fera le choix. Je ne vais pas lui dire le choix qu'il a à faire parce que je ne choisis pas sa vie. Moi, si le jeune il est dans la difficulté, il n'a que ça pour s'en sortir, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? J'ai rien à lui dire, moi. Je ne vais pas lui dire ce qu'il a à faire. La question, c'est que je lui dirais juste, surtout, garde à l'esprit pourquoi tu fais du sport. Réfléchis à long terme. Les choix à court terme ne sont pas toujours les bons. Ne fais rien, surtout pour les autres. Fais les choses que pour toi. Garde ton plaisir dans la pratique. Il y a plein de choses comme ça. Et j'ai dit, et tu sais, la plus grande des fiertés pour un homme, si c'est un garçon, c'est que les enfants soient fiers de toi. C'est tout. Sois fier de leur papa. Et je crois qu'à partir de là, vous savez, aujourd'hui, je suis bien placé pour le vivre. Quand j'ai des gens qui viennent voir mes enfants et qui disent que voilà, leur père, c'est un homme d'honneur, mais vous ne pouvez pas être plus fier que ça.
Pendant ta conférence, tu as utilisé plusieurs fois les termes de comparaison, compétition, confrontation. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces différents mots ?
Oui, je ne suis pas un anti-compétition. Par contre, il faut faire attention à comment on aborde une compétition. Moi, je suis très favorable à la confrontation. Parce que la compétition, dans le sens de la confrontation, va vous permettre de dépasser vos limites, d'aller toujours au-delà, d'aller chercher encore plus loin. Ça, c'est intéressant. Par contre, chercher la compétition, pouvoir se comparer, battre l'autre, c'est pas ça. Là, on fait fausse route. Je veux dire, combien de fois au boulot, il y a des gens qui ont besoin de dire que son voisin travaille mal pour se convaincre qu'eux travaillent bien. Il y en a plein comme ça. La bonne estime de soi, telle qu'on l'appelle, c'est celle où on est capable de s'auto-évaluer, de savoir soi-même si on est quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. Avoir besoin de démonter les autres, etc., ou de s'en comparer pour exister, déjà c'est une déviance, une fausse estime de soi. Et ça on apprend. Il suffit voilà, de faire un travail sur soi, ça peut passer par de la méditation de pleine conscience, des choses comme ça, des techniques qui vous permettent de vous recentrer sur vous. Moi pour ça, le sport de nature m'a beaucoup apporté, le VTT, parce que j'ai appris le vélo tout seul dans la nature. Mon seul élément, je jouais avec mon corps et mon environnement. Et j'ai jamais eu de comparaison avec d'autres. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après, malheureusement, il y a des sports qui sont construits de manière à vous confronter. Mais quand on parle des sports de combat, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, en fonction de nos expériences et tout, mais je pense qu'il faut vraiment développer ce côté-là. Et comme je dis, voilà, le plaisir, comme je dis, un sport, il est avant tout fait pour être pratiqué et pas regardé. Moi, quand je regarde un sport à la télé, je regarde un spectacle. Quand je pratique du sport, je pratique du sport. Donc, il faut se recentrer là-dessus. Le plaisir, c'est la pratique et pas la réussite.